Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Aujourd'hui, pour vous, on essaie d'éclaircir cette histoire des policiers qui pourraient entrer chez vous pour vous donner des contraventions. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Ensuite, il y a la Fondation du Barreau qui lance un guide de résolution de conflits pour vous guider quand vous vous chicanez. On va parler à Maître Boily, évidemment. Ben, on lui parle du procès là, du numéro 2 de l'UPAC en lien avec son travail. Congédiement ou démission, c'est la question qu'on va se poser. Et on va commencer tout ça avec la revue de l'actualité judiciaire. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On commence l'émission avec la revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Ça a brassé pas mal cette semaine avec Maître Jean-Paul Boily qui est avec moi en forme.
Oui, bonjour.
Bon, bonjour. Votre micro est ouvert. On vous entend.
Moi, j'étais peut-être un peu.
OK. Loin.
J'essaie de garder le 2 mètres tout le temps.
Ben oui, vous aviez de l'âne dans le fond là-bas.
Ben oui.
Dans le fond de la salle. OK. Cette semaine, on y va en rafale là, parce qu'il y a quand même du stock. On va commencer avec les parties privées. Là. Ça, on va en parler plus tard avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Les activités dans les maisons privées, le politique, si on peut dire, a une patate chaude parce qu'ils ne sont pas capables vraiment d'intervenir. Si quelqu'un a une belle réception de 20 personnes, le policier va avoir de la difficulté à rentrer pour constater tout ça. Et même, on se demande si on devrait interdire les manifestations anti-masques. C'est assez contradictoire. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est François Legault, le premier ministre, cette semaine, là, qui a dit, écoutez, lui, il veut faire quelque chose, mais il veut pas que ces gens-là soient des martyrs. Bon, je sais que vous allez en parler avec Maître Rancourt, là, pour ce qui est dans les gens qui rentrent dans les maisons. Là. Bon, il y a un problème parce que la loi provinciale semble pas nécessairement... En tout cas, vous allez en parler tout à l'heure.
On va le dire tout de suite. La loi
fédérale qui pourrait peut-être d'amener ces mesures d'urgence pourrait peut-être servir.
Ben, je veux dire, c'est parce que la police rentrée dans une maison, c'est un sanctuaire. Je veux dire, on n'est pas dans une dictature. De rentrer comme ça, il y a des exceptions qui sont du fait de si quelqu'un, sa vie est menacée, s'il y a de la preuve qui va être perdue. Mais d'arriver, Maître Boily, si... puis là, c'est tout de la jurisprudence, parce que le droit criminel, c'est fédéral. Et là, la loi sur la santé publique là, québécoise, ça peut-tu vraiment enfreindre ça? On peut-tu vraiment donner le pouvoir policier de rentrer dans les résidents?
Il y a un article dans la loi là, qui prévoit que dans des cas où on veut vraiment s'assurer que les gens respectent, c'est l'article 123, le 8e, là, qui dit qu'ils peuvent ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé du public, c'est sûr qu'à la limite, dire qu'il y a une pandémie, c'est peut-être ça, mais il reste qu'il y a des lois fédérales, puis il y a un article dans le code criminel, d'ailleurs, vous le savez, qui empêche l'intrusion sans mandat chez les propriétés privées. Mais d'un autre côté, la loi fédérale, ces mesures d'urgence, on le dit, ça venait s'appliquer, elle pourrait venir... Puis ça serait un bon triste devant les tribunaux en disant, écoutez, là, on parlait hors d'onde, si vous donnez un coup de couteau à quelqu'un, il mourra peut-être pas tout de suite, mais la police a peut-être le droit, s'il y a une infraction qui a été commise à l'intérieur d'une résidence, de rentrer à ce moment-là. Alors là, je ne sais pas, mais ce que M. Legault dit cette semaine, puis on parle des parties, mais on parle aussi des rassemblements, tout ça. Souvenez-vous, en 2012, la gang de Liberté, là, ils voulaient tous porter des masques pour faire des manifestations à travers les carrés rouges, parce que c'était pas juste les étudiants qui manifestaient. Il y avait beaucoup de casseroles puis beaucoup de monde. Mais là, on est rendu en 2020, puis je voyais le collègue cette semaine, Antoine Robitaille, en parler dans sa chronique. C'est comme le monde à l'envers. Là, on ne veut plus porter de masque. On veut se rassembler. Je veux dire, les gens, des fois, là, ça chiale pour n'importe quoi. Mm-hmm. Alors là, il va falloir que le gouvernement mette ses culottes, puis il va falloir qu'en quelque part, qu'ils prennent une décision. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ah, mais ça serait mal vu. Manifestation contre les masques, ouais. contre la distanciation. Tu sais, ça ferait que le gouvernement veut baïonner le monde. Il alimenterait, c'est la théorie du complot. Je pense que tant qu'il n'y a pas de preuves directes qu'il y a eu de la contamination...
Ça va être tough.
Ouais, ça ne sera pas évident. Okay. Ensuite, la LNH et la Ligue junior sont visées par une demande d'action collective.
On a vu ça, là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les juniors, lorsqu'ils rentrent dans les ligues, la Ligue canadienne, en fait, il y a trois ligues, là, vous savez, l'Ouest, ici, et l'Ontario, avec les Maritimes, le Québec et les Maritimes. Bon, ces trois ligues-là, la règle, c'est la suivante. C'est lorsque vous rentrez dans une ligue junior ici au Canada, vous devez vous engager à ne pas aller dans une ligue professionnelle autre que la Ligue nationale. Or, il y a un bureau d'avocats qui a pris une procédure cette semaine, une demande d'action collective, on l'a déjà expliqué, il faut que ça soit autorisé d'abord et avant tout. Mm-hmm. Il y a un des joueurs ontariens, un ancien joueur, qui réclame là, entre 150 et 500 000 par joueur. C'est un peu beaucoup, mais quand même, il reste que ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils disent, il allègue, en vertu de la loi canadienne sur la concurrence, la Ligue nationale ne peut pas se lier avec les autres ligues. Parce que vous savez qu'il y a des ligues professionnelles mineures, la Ligue américaine d'hockey en est une, la East Coast League qu'on appelle ECHL, ce sont des ligues professionnelles. Vous avez le semi-pro ici également au Québec, mais où on paie les joueurs pour jouer au hockey, mm-hmm. et c'est des salaires, c'est pas des millions par année. Mais un joueur dans la Ligue américaine d'hockey peut très bien faire une carrière, mais il les prennent pas avant 20 ans. Or, on dit, ben écoutez, à 18 ans, vous êtes majeur, vous auriez le droit, en principe, de jouer au hockey, de gagner votre vie, à compter de 18 ans et non à 20 ans. Alors, ce qu'on rétorque de l'autre côté, puis évidemment, il y a du pour, il y a du contre, parce qu'on dit que des jeunes en bas de 20 ans, des fois, bon, devenir professionnel, entre guillemets, même si c'est pas la Ligue nationale, c'est pas bon pour eux, parce que, bon, sont mieux encadrés dans le junior, ils ont des pensions, il y a des règles plus strictes, etc. Mais des jeunes de 19 ans, ben, ils sont majeurs, 18 ans aussi. Alors, puis il y a même des joueurs de 20 ans qui sont... Eux, ils auraient le droit, mais... En fait, lui, ce que ce bureau d'avocats là demande, c'est de dire, écoutez, il y a eu, en vertu de la loi concurrence, on s'est concilié ensemble pour faire en sorte que ces jeunes-là, en tout cas canadiens, ne puissent pas, parce que les Européens, eux, ils peuvent. Il y a des joueurs de 18-19 ans qui jouent dans les circuits professionnels européens, puis des fois, ils viennent après jouer dans la Ligue nationale. Mais les juniors ici ne peuvent pas faire ça. Alors, c'est à suivre. On va se tenir au courant de ça.
À suivre. Celle-là est bonne. Attachez-vous bien. Attachez votre truc. Un couple poursuit pour près d'1 million pour une vasectomie ratée. C'est ouais. quoi ça, Matt Boily?
Ben, vasectomie ratée, ça le dit. Là, c'est voulu se faire couper le zizi puis ça n'a pas fonctionné. Il semble que c'est un couple de Quaticook qui avait déjà 4 enfants. Et puis, bon, ils sont allés consulter un médecin, là, un spécialiste, et ce docteur-là, l'urologue en question, M. Jaldres, n'aurait pas indiqué au monsieur, finalement, qui s'est fait couper le zoin-zoin, que ça n'avait pas fonctionné. Or, il y avait déjà 4 enfants. Ils en ont eu un 5e. Et là, la dame, évidemment, elle voulait pas d'enfant. Elle voulait se faire couper pour ça. Puis, ils en ont eu pareil. Fait que, bon, elle voulait se faire avorter. Mais là, évidemment, c'est une mère de famille. Elle a 4 enfants déjà. Et ça va faire passer une échographie, entend le cœur du fœtus. Non, il n'y en a pas question.
Ouais, mais ça, je voudrais pas être l'enfant qui apprend qu'il y avait une poursuite parce que je suis né.
Mais c'est ça. Mais il reste que... Non, mais là, poursuit pas parce que l'enfant est né. Poursuit parce que, on dit en anglais, malpractice. On n'a pas donné l'information. Vous savez, les professionnels, on est responsable de l'information qu'on donne aux gens. Si on donne une mauvaise information, on a des assurances responsabilités qui peuvent payer pour ça. Alors là, la poursuite, c'est un petit peu moins de 1 million $, c'est 850 000. Je ne veux pas dire qu'ils vont l'obtenir, mais ils devront démontrer à ce moment-là que l'information qu'ils ont reçue, d'abord, s'ils avaient reçu cette information-là, peut-être qu'ils n'auraient pas fait l'acte, peut-être qu'ils auraient fait autrement. Il semblerait que la madame s'est fait enlever les trompes de Fallope, qu'on dit.
Okay.
Alors, par la suite, pour être sûr qu'elle était stérile, mais qu'elle n'aurait plus d'enfant. Mais au moment où elle, avant cette décision-là, ben, il n'était pas au courant. Alors là, ils poursuivent en disant, écoutez, mauvaise pratique médicale, et puis on réclame.
Un million, c'est pas rien. Là.
850, ça paye les bonnes Noël.
Ouais. Autre nouvelle, je voulais vous en parler, M. Boily, c'est le ministre Dubé qui offre ses excuses public à la coiffeuse. Je sais pas si vous avez vu ça dans les médias.
En fait, ce qui est arrivé, c'est assez simple. C'est qu'il aurait dit, par mégarde, cette dame-là était au courant, puis elle est allée coiffer des gens. Alors, c'était une mauvaise information.
Non, mais moi, je l'ai écouté live, comme on dit, et moi, je me suis dit, quand j'ai entendu le ministre Dubé dire une coiffeuse se sachant contaminée, donc ayant eu un résultat,
c'est choquant,
est allée coiffeur des gens, moi j'allais écrire quasiment là-dessus.
Tentative.
La coiffeuse tueuse, parce que parce que je me disais ça a pas de sens. Alors, c'est criminel de faire ça.
C'est là qu'on
c'est de la négligence criminelle.
Faut attendre toute la preuve.
Ben, c'est ça. Là, après ça, je vois ça, c'était pas le cas. Elle ne savait pas,
Et il a passé un mauvais quart d'heure, semble-t-il, à cause de ça.
Ben, j'imagine.
Alors, belle poursuite.
Mais là, ce que je voulais...
Non, pas vrai, mais il reste que...
Je voulais vous demander, quasiment... Elle a subi un dommage.
Le ministre était lui-même mal informé, puis s'est rectifié au saut qu'il le suit. Il est allé sur Twitter, il est allé sur les réseaux sociaux. Bingo, chapeau, M. Dubé, mais il reste que faites attention la prochaine fois, parlez trop vite.
Ouais, c'est dangereux, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, elle a passé un mauvais quart d'heure. Maintenant, il y a la fillette martyre de Granby qui ont obtenu que le procès ne se tienne pas à Granby, mais à Trois-Rivières.
Exact.
Parce que, dans le fond...
Il y a beaucoup de monde qui sont... Puis ça se fait... On appelle ça un changement de district, là, un changement de venue. Donc, lorsqu'on pense qu'un procès ne peut pas se dérouler d'une façon correcte parce qu'il y a trop de gens qui sont impliqués dans un district, bon, on change de district judiciaire. Ça, c'est une procédure qui est un peu spéciale, mais ça se voit de temps en temps. Ça arrive dans des cas là, où c'est très médiatisé. Alors, je pense que c'est une bonne chose.
Non, je suis pas sûr. Ça a choqué le Québec au complet. Je pense que c'est un problème plus grand que ça.
Peut-être.
C'est le problème de réussir à faire une cause tant médiatisée devant un jury. Tu sais, je veux dire, c'est il y a personne, que ce soit à Granby ou à Trois-Rivières, je pense que ça va être la même affaire.
Ah, c'est clair.
C'est que les gens sont teintés. Parce qu'on se rappelle, pour être jury dans ces causes-là, c'est de ne pas avoir entendu parler.
Non, c'est pas avoir une opinion. C'est bien différent.
C'est ça. Pas avoir entendu parler de ça, il faut que tu sois dans une grotte.
Ben exactement, parce que tout le monde, ça a été tellement médiatisé, on en parle encore d'ailleurs.
Mais il faut pas que tu sois teinté, là, partial, disant que toi, ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé. Mais ça sera pas facile.
La sélection des jurés à faire la différence.
Ça sera pas facile. Alors, on a le temps pour une petite vite dernière. Il y a un Hells Angels se fait prendre à discuter de vendre des centaines de kilogrammes de cocaïne.
Ben oui, lui, effectivement, là, c'est un monsieur qui... Il était en dedans, puis je pense qu'il était très actif également, mais ce monsieur-là aurait, semble-t-il, été intercepté par des conversations que la Sûreté du Québec a faites, parce que vous savez, on peut obtenir, vous allez en parler avec Maître Rancourt, un mandat pour écouter des conversations téléphoniques lorsqu'on pense qu'il y a des crimes qui sont commis.
Ouais.
Alors, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Puis, écoutez, ce que je comprends, c'est que ce monsieur-là, il semblait avoir beaucoup de bons contacts. Fait que je pense que ça va être à suivre, mais ils ont fait jouer les enregistrements, puis...
Il a trop parlé. Merci, Matt Boily.